soit numérique et tais-toi.
Le numérique nous rapproche de cette réalité.
Allez, je vais t'apprendre 2-3 petits trucs.
Le numérique matérialise la réalité qui nous entoure.
J'ai rien compris.
Non, ou alors c'est moi.
Non, moi non plus, j'ai rien compris.
Tais-toi, va fada.
Le numérique, c'est avant tout du traitement de symboles.
Tais-toi.
Qu'est-ce que tu racontes? Tu connais rien, toi.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de Sois numérique et tais-toi, l'émission qui chaque semaine aborde en 10 minutes une des multiples questions sur les technologies numériques et informatiques qui s'occupent de nos cartes de crédit, de nos cafetières et de nos photos de famille. Et tant pis pour vous si vous n'avez pas lu les 95 pages de conditions générales d'utilisation. Après avoir vu la semaine dernière l'enjeu des espèces, du paiement en espèces dans le monde numérique, nous allons maintenant essayer de comprendre plus précisément comment fonctionne le paiement par carte sur un terminal de paiement. En effet, c'est souvent de manière très ignorante que nous payons par carte dans un commerce sans savoir réellement ce qui se passe, si ce n'est de voir le crédit de son compte qui baisse. Alors, de quoi parle-t-on ? Une carte bancaire se présente sous la forme d'une carte plastique, équipée d'une bande magnétique et éventuellement d'une puce électronique. Alors qu'on imagine souvent une transaction entre acheteur et vendeur, en réalité, cet outil met en relation quatre acteurs. Un client, porteur, qui possède une carte de paiement. Un commerçant, accepteur, équipé du terminal de paiement. L'établissement financier du commerçant, sur lequel est connecté le terminal. Et l'établissement financier du client, qui va répondre à la demande d'autorisation en ligne. La transaction peut s'effectuer soit en ligne, soit hors ligne. Lorsque c'est en ligne, cela passe par un réseau de communication interbancaire, ce qui permet à la banque de l'émetteur d'autoriser le paiement. Dans le cas d'un distributeur de billets, la transaction est obligatoirement en ligne. Mais elle peut aussi se faire hors ligne, et alors l'autorisation n'est pas obligatoire. Il existe d'autres types de paiements, moins répandus, à partir de portefeuilles électroniques, une sorte de carte bancaire prépayée. En gros, vous avez dépensé de l'argent sur votre compte en banque pour charger une carte électronique que vous utilisez ensuite pour payer. C'était le cas il y a quelques années du système Moneo, que les banques ont voulu nous faire utiliser, mais qui fut globalement un flop. Pour la chronique d'aujourd'hui, nous allons nous contenter de parler de paiement électronique à partir d'un compte en banque. Lorsqu'il s'agit d'un paiement dans un commerce, notre paiement au commerçant passe par un TPE. Un terminal de paiement électronique. C'est le boîtier, avec ou sans fil, que le commerçant nous donne lorsque l'on doit utiliser sa carte bancaire. Alors, comment fonctionne ce TPE ? La transaction de paiement fonctionne sur la base d'une vérification qui s'appuie sur un lecteur de bande magnétique ou de puce électronique. Pour information, le système par bande magnétique est très peu sécurisé. Il s'utilise encore dans certains pays comme aux États-Unis, car il fut inventé avant le système de puces. Mais vous avez sûrement remarqué que certains commerçants acceptent certaines cartes et pas d'autres. En réalité, c'est parce que les terminaux de paiement électronique sont comme de véritables ordinateurs. Autrement dit, ce sont des machines sur lesquelles sont installés des logiciels, et ces logiciels peuvent être différents. Sur le site comprendrelespaiements.com, on peut ainsi apprendre qu'en France, le logiciel standard du TPE permet, en raison de l'interbancarité, d'accepter par défaut les cartes CB, Mastercard, Maestro, Visa Electron et Moneo. Mais il existe d'autres logiciels qui peuvent être installés sur le TPE pour réaliser d'autres fonctions et répondre ainsi à certains besoins plus spécifiques. Par exemple, le logiciel Amex, qui permet d'accepter les cartes American Express. Le logiciel NFC sans contact, qui permet au terminal d'accepter les paiements sans contact. Et il y a aussi des logiciels spécifiques pour chaque carte comme Cofinoga, CTLM, Diners Club, etc. Toujours sur ce site, on y apprend le coût de ce service. En effet, si le client paye le même prix en espèces ou en carte, le commerçant paye l'utilisation du système interbancaire avec une commission interbancaire de paiement. En France, pour les montants inférieurs à 15 euros, cette commission est d'un peu plus de 2 centimes, plus 0,20% du prix. Pour les autres montants, c'est un peu moins de 5 centimes, plus 0,18% de ce prix. Mais réfléchissons un instant. Nous voyons désormais l'importance du TPE, le terminal de paiement électronique, dans toute transaction par carte bancaire. Or, en tant que client, nous avons en réalité très peu de connaissances sur ces petits ordinateurs à qui nous donnons des autorisations à débiter notre compte et des numéros secrets. Regardons un peu l'actualité de la fraude en France. Dans son numéro de novembre 2019, le magazine Que Choisir a mené une enquête et titre en une « Carte bancaire, les fraudes explosent ». On y apprend que 86% des fraudes concernent la carte bancaire et que la gendarmerie nationale a répertorié près de 900 000 cas de ce type de fraude pour environ 99 millions d'euros détournés. Parmi les points d'entrée pour les voleurs de données bancaires, le fameux TPE, le terminal de paiement électronique. Ce dernier peut permettre de cloner une carte bancaire. Je cite, « Le skimming, ou clonage, consiste à copier des cartes via un distributeur, un terminal de paiement ou un automate sur lequel le pirate a fixé un lecteur de bande magnétique invisible. Numéros et dates d'expiration se retrouvent alors enregistrés sur des cartes vierges servant à effectuer des retraits dans des pays n'utilisant pas de puces, tels les États-Unis, comme je l'expliquais tout à l'heure. Ce piratage du terminal de paiement électronique n'est généralement pas l'œuvre du commerçant, mais il suffit qu'un pirate détourne son attention, subtilise le TPE et le remplace par un autre du même modèle, et le commerçant n'y voit que du feu. Les voleurs laissent le TPE fonctionner quelques heures ou quelques jours et reviennent ensuite pour récupérer les données enregistrées en se plaçant à proximité de la caisse pendant quelques dizaines de secondes. Nous avons parlé dans une précédente chronique du marché noir des données volées. Eh bien, ces données de cartes sont vendues sur ces marchés. Quelques euros pour un numéro de carte et une date de validité, et plusieurs centaines d'euros pour un dossier complet, numéro, date, cryptogramme, identité, téléphone, adresse, etc. Mais alors, et nous dans tout ça ? Eh bien, en tant que personne victime d'un vol, encore faut-il s'en rendre compte. En effet, pour ne pas attirer l'attention, les sommes détournées sont généralement de quelques dizaines d'euros, effectuées en plusieurs fois. L'enquête de Que Choisir montre que 73% des victimes découvrent la fraude en consultant leur compte. Mais en pratique, il est quasiment impossible de reconnaître un TPE piraté. La principale précaution reste de bien vérifier ses relevés de compte et de dénoncer rapidement les paiements frauduleux auprès de sa banque. Mais les données nécessaires au piratage peuvent aussi être collectées manuellement et très facilement. Votre numéro de carte, votre date d'expiration et votre cryptogramme à trois chiffres sont visibles à l'œil nu. Un employé mal intentionné à qui vous donnez votre carte peut ainsi collecter ces informations, par exemple en prenant rapidement une photo recto verso, pour ensuite effectuer un paiement en ligne. Aussi, une gommette collée sur le cryptogramme de votre carte n'altère pas son fonctionnement, mais limite la possibilité de vol manuel de vos données. Bref, étant donné que ce sont les banques qui nous poussent à utiliser ces moyens de paiement plutôt que les espèces ou les chèques, on pourrait s'attendre à une compréhension face à ce risque de fraude. En pratique, non seulement les banques nous facturent des assurances pour ce type de vol, mais en plus, l'enquête de Que Choisir explique que seulement 2 victimes sur 3 obtiennent un remboursement de leur banque. Alors, comme je l'expliquais la semaine dernière, la meilleure manière de protéger l'accès à son compte en banque reste de payer en espèces ou en chèques. Vous entendez ? C'est le paiement le plus sécurisé du monde.